Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Donc ça, c'est un bâtiment de commerce. Donc on entend l'hélice qui tourne. Il y a un rythme à 78 tours. C'est très bruyant.
Le cinéma nous a appris ce que sont les oreilles d'or dans les sous-marins, ceux qui savent entendre ce que vous ne savez pas identifier. Eh bien, vous verrez dans le réel à quoi ils servent réellement ces marins-là, dans la lutte contre Daesh notamment, et la protection du Charles de Gaulle. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu en Roumanie, au Zimbabwe et avec quelques stars un peu vieillissantes. La chronique pour tous de Julia Foyce, vous verrez que dans certains pays, les thérapies de conversion existent encore et nous sommes donc en 2019. Le monde à l'envers de Jean-Marc Four en Libye ce soir. Est-ce que nous disent les événements de ces derniers jours? L'offensive du maréchal Haftar, qui dérange-t-elle cette offensive au fond? Et on le verra avec Jean-Marc. Mais d'abord, nous allons en Israël. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Israël qui vote évidemment en ce moment et nous suivons cela pas à pas grâce à Étienne Monin depuis Jérusalem et qu'on retrouvera dans un instant, nous fera partager ce que vivent les Israéliens. Et bonsoir à vous Alain Diekhoff.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du Centre de Recherche International. Dans un reportage ce matin justement, Étienne nous disait que Benjamin Netanyahou jouait sa carrière politique en quelque sorte sur cette élection, que pour lui c'est vraiment une élection à qui tout double, c'est vraiment comme ça que vous l'interprétez aussi?
Bah, disons que, en tous les cas, l'élection se cristallise autour de sa personne. Ça c'est assez évident parce que dans le fond, ce qui est demandé aux électeurs, c'est de savoir s'ils sont prêts à ce qu'il ait un mandat supplémentaire. C'est-à-dire, il est déjà depuis 10 ans au pouvoir. Donc, en effet, là, du coup, s'il l'emporte, il aura 4 années supplémentaires. Donc, encore la possibilité de marquer par son action politique la vie d'Israël dans les années à venir.
Est-ce que c'est parce qu'il le joue lui? Lui, à qui tout double, qu'il, ces derniers jours on l'a vu, qu'il crie beaucoup au loup, à la sécurité, pour ça qu'il a fait tapis en quelque sorte en parlant d'annexer, je mets des guillemets parce que c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais enfin c'est ce que ça voulait dire, la Cisjordanie, c'est aussi pour accentuer ça.
Alors il a pas tout à fait dit annexer c'est la Cisjordanie, il a dit en réalité faire en sorte que les colonies juives soient rattachées à l'État d'Israël d'un point de vue légal. Donc les colonies juives, il faut savoir qu'il y en a à peu près 130 qui ont été construites depuis 1967, ça représente, alors ça dépend ce qu'on inclut, mais disons entre 10% et 40% de la Cisjordanie. Mais ça veut dire quand même très clairement que si cela se faisait, la solution à deux États est abandonnée. Donc c'est ça en fait le message.
Et qui est clair, non, depuis le début d'ailleurs. Honnêtement, qui y croyait encore, en tout cas dans la bouche de Netanyahou, d'une solution à deux États, quoi qu'il arrive?
Bon, lui, de toute façon, n'y a jamais adhéré. En réalité, il avait un moment juste accepté, un peu du bout des lèvres, que ça pouvait être une perspective, mais il n'a jamais rien fait pour aller dans ce sens-là, et il n'y a jamais cru. En réalité, il faut se souvenir qu'il y a déjà bien longtemps, quand il était bien plus jeune, entre 94 ou 95, à l'époque où Rabin était au pouvoir et que Rabin avait mis en place les accords d'Oslo, il avait été férocement contre et il l'avait montré de façon extrêmement forte.
Mais cette proposition coup de poing et tapis, juste en fin de campagne, Alain Diekhoff, est-ce qu'elle est vraiment sérieuse ou pas? Est-ce qu'il compte mettre en place un certain nombre de choses pour aller jusque-là ou pas?
Elle est sérieuse dans le sens où c'est un message en fait à son électorat le plus à droite. En réalité, ça veut dire donnez-moi le maximum de voix pour que je sois le parti, c'est-à-dire que le Likoud soit le parti le plus important en nombre de sièges, ce qui n'est pas gagné. En revanche, là où il a un avantage certain, d'après tous les sondages, c'est la capacité à constituer une coalition après les élections, parce qu'il faut jamais oublier qu'on est dans un système proportionnel.
Absolument, et on y viendra dans un instant. Étienne Monin, vous qui êtes à Jérusalem, c'est lui, c'est Netanyahou, de toute façon, qui sciemment polarise la campagne sur lui, non?
Oui, et il a déjà fait ça depuis un moment parce que Netanyahou est un peu le l'as, on va dire, de la polarisation en Israël. Depuis 2015, les choses s'accentuent. Il avait déjà polarisé contre les Arabes israéliens. Les tensions étaient fortes à la Knesset. Et d'ailleurs, les Arabes aujourd'hui semblent ne pas se mobiliser, ce qui prouve que cette radicalisation dans les partis n'a pas profité pour l'instant aux populations. Et puis, il s'en était pris aux ONG, à la gauche. Aujourd'hui, il s'est mis au centre des discussions. Il a avancé ses élections. N'oublions pas, ce sont des élections tissées. anticipé en fonction du calendrier judiciaire, et il l'a fait à la fois pour pouvoir se présenter comme victime du système et puis pour, comme le garant de la grandeur du pays. Il a tapé tout de suite sur les Arabes israéliens, il a terminé, vous le citiez, par l'annexion des colonies, en tout cas la promesse d'annexer les colonies en Cisjordanie. C'est donc une campagne de personnes plus qu'une campagne d'idées, et il est possible qu'il y ait un effet lassitude parce que devant les bureaux de vote, les gens disaient que cette campagne n'était pas très intéressante.
Alors justement, un Premier ministre qui attaque les médias, qui attaque la police, qui attaque la justice, qui attaque les institutions, cette tension sur l'état de droit, c'est des choses, c'est ce que vous nous racontiez, Étienne, qu'on voit réellement. Je voudrais qu'on écoute Dalia Schenling, elle est spécialiste des enquêtes d'opinion en Israël. Voici ce qu'elle dit et on réagit juste après.
Il y a l'idée d'une sorte de vieille élite qui dirigerait le pays, comme un état profond, même si la gauche n'est plus au pouvoir depuis longtemps maintenant. Il y a quand même cette idée que certaines institutions en Israël, les tribunaux, les médias, le monde universitaire et la société civile sont dominés par une frange libérale, cosmopolite, qui préférait lâcher une partie du pays, stopper la construction des colonies et apporter un ancrage constitutionnel pour l'égalité, y compris pour les citoyens non-juifs. Et cela leur donne le sentiment d'être menacés. Et ça leur donne aussi le sentiment que ce n'est pas juste. Si vous appartenez à la droite, vous dites « On n'a pas élu ces gens. Pourquoi est-ce qu'ils ont un tel contrôle sur notre société ?» Je pense que ce que Netanyahou a particulièrement réussi, c'est qu'il a identifié cette rupture dans la vie israélienne, ce nouveau regard sur la société, comme la menace sur les valeurs juives, la menace sur l'identité juive. Je pense qu'il a identifié cela et qu'il s'en sert autant qu'il en a besoin pour se présenter comme le leader qui protège ses valeurs.
Et Étienne, au fond, c'est ce qu'on disait, ce sont eux les faibles, les gauchistes, les médias, les droits de l'homiste, et nous, nous sommes les patriotes, et nous sommes ceux qui allons sauver votre sécurité. C'est ça le message, au fond.
Oui, Netanyahou a théorisé l'état fort, en fait, nous devrons vivre par le sabre, c'est-à-dire que lui considère qu'il faut avant tout un état fort avant de s'ouvrir vers le monde et de négocier. Il accuse la gauche, elle, d'avoir négocié Oslo, ça reste un thème encore aujourd'hui présent, sauf que tout ça est un effet d'optique. Son adversaire principal aujourd'hui, c'est un ancien général. Le parti qu'il dirige, c'est le parti des anciens généraux, puisqu'ils sont trois, et parmi eux, il y a des anciens du Likoud.
Et plus qu'un ancien général, même Alain Dikov, c'est l'ancien chef d'état-major. Donc, parce que faut pas qu'on confonde, en face de lui, la fameuse coalition blanc-bleu, c'est pas la gauche, c'est une espèce de centre-droit. En tout cas, sur les questions de sécurité, est-ce qu'on est vraiment très loin entre le Likoud et cette coalition-là ?
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas une différence énorme sur deux points. Il y a même tout à fait une convergence, c'est que la coalition blanc-bleu, donc qui est constituée de ses anciens généraux, donc un parti tout nouveau en réalité, dirigé par Benny Gantz, et de l'autre côté le journaliste Yair Lapid, ils sont d'accord sur l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait de division de Jérusalem. Ils sont d'accord aussi sur la question du Golan, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'en effet le Golan occupé en 67 et donc annexé par Israël en 81, annexion qui était reconnue tout récemment par Trump, et il ne faut pas revenir sur ça. Là où ils divergent de lui, c'est sur la question palestinienne. Mmh. Alors, et en même temps, ils ont été très timides, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout dit, par exemple, qu'ils étaient favorables à la création d'un État palestinien. Mmh. Ils voudraient reprendre des négociations avec les Palestiniens, sans trop préciser, finalement, les modalités, finalement, de reprise de ces négociations. Et donc, vraiment, c'est un service un petit peu à minima sur cette question.
Qu'est-ce qu'ils disent, notamment, sur les colonies, sur la Cisjordanie ? Est-ce qu'ils ont dénoncé très concrètement cette idée d'annexion, j'y mets encore des guillemets, ou pas ?
Alors ça oui, non, ça oui, parce qu'ils pensent que Netanyahou est allé trop loin en faisant cette proposition, mais en même temps, c'est vrai qu'ils sont quand même relativement timides dans leur proposition, parce qu'ils sentent bien une chose, et je crois que c'est quand même ce qu'il faut dire, si Netanyahou est à nouveau en mesure de constituer un gouvernement, ça n'est pas le fruit du hasard, ça n'est pas seulement dû à son talent politique qui est réel, mais c'est dû aux transformations à l'intérieur de la société israélienne, c'est-à-dire que la société israélienne, indéniablement, elle a eu un mouvement qu'on pourrait qualifier grosso modo de mouvement vers la droite depuis une quinzaine d'années, et qui sont liés aux transformations internes à Israël. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé au cours des 20-25 dernières années ? Eh bien, c'est la solidification de certains blocs à l'intérieur de la société israélienne, les milieux populaires constitués des juifs orientaux qui votent Likoud depuis maintenant 40 ans, et dont les enfants continuent à voter Likoud, les sionistes religieux qui sont depuis 77 aussi partis très clairement à droite, et les juifs venant, qui sont venus dans les années 90 d'Union soviétique, qui sont, tout en n'étant pas religieux, très nationalistes. Donc ça, c'est quelque chose qui renforce objectivement Netanyahou.
Et alors, et en même temps, j'allais dire, Étienne Monin à Jérusalem, le bilan Netanyahou, parce que là, effectivement, on parle de politique et on parle de sécurité, le bilan en termes social, en termes économiques, de ces 10 années donc, qui ont été passées avec lui, il ressemble à quoi, Étienne?
Alors le bilan économique est reconnu, Israël est ancré dans l'économie libérale, c'est un succès de Benjamin Netanyahou, les indicateurs sont bons, taux de chômage planché à un peu plus de 4%, la croissance à 3%, mais le coût de la vie est élevé, l'immobilier est hors de prix et les inégalités sont très fortes. On note qu'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Il y a donc à la fois des indicateurs formidables et une réalité beaucoup plus nuancée, beaucoup plus difficile pour les Israéliens.
Et justement, Étienne, vous avez rencontré Morgan. Il est franco-israélien et voici ce qu'il dit.
Peu importe qui aborde la politique en Israël, le sujet numéro un, c'est la sécurité. Mais malheureusement, comme souvent, la sécurité, ça prend le dessus sur la vie quotidienne en Israël. Moi, j'ai fait mon alia dans un endroit d'Israël où qui est beaucoup beaucoup plus pauvre que le centre. Et j'avais vraiment vu la séparation en termes de niveau de vie, en niveau d'éducation entre les gens. Il y a énormément de pauvres en Israël. Il y a des gens qui sont très très pauvres. Il y a des écarts de revenus qui sont impressionnants. Il y a des gens qui n'ont pas de dents ici. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a des gens qui sont dans la rue et on vous dit mais c'est des gens qui sont dans la rue, ils le veulent bien, mais il y a des institutions, c'est parce qu'ils sont désocialisés, c'est pas vrai, parce que moi-même j'ai eu besoin d'aide pour un coup de pouce et les institutions ici elles sont démissionnaires, c'est insolent. Donc voilà, malheureusement, encore une fois, la sécurité prend le pas sur le sujet de la vie quotidienne des gens.
Étienne, en un mot, moi j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que de toute façon, au cours des campagnes précédentes, le social a jamais eu vraiment une place au fond dans les campagnes israéliennes, si ?
Non, mais l'ambiance maintenant en Israël est plus tournée vers la société. Certes, il y a Gaza encore de temps en temps avec des roquettes, mais globalement, on est sorti de l'ère du tout sécuritaire en Israël et les gens regardent un peu plus leur quotidien et ils constatent que dans cette campagne, ça n'a pas été évoqué. C'est un peu l'oubli des populations en Israël, le contexte de cette campagne.
Il y a une chose que je voudrais qu'on aborde ensemble, Alain Diakov, avant de revenir sur le scrutin tout à l'heure avec Étienne. On a vu Benjamin Netanyahou accueillir Bolsonaro récemment. On a vu Benjamin Netanyahou accueillir, alors ça c'était mal passé autour de la Pologne, mais enfin les pays du groupe de Visegrad, donc les Européens qui sont des eurosceptiques. On a vu que de nouvelles alliances étaient en train de se former. On voit une alliance avec les États-Unis qui est très différente aujourd'hui, évidemment avec Donald Trump et notamment l'affaire du Golan récemment. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue-là, Netanyahou a sorti Israël d'un isolement diplomatique dans lequel il était, en tout cas dans l'ère précédente?
Alors, d'une part, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que Israël n'est plus isolé diplomatiquement depuis belle lurette. Et de ce point de vue-là, Israël a tiré les bénéfices, les dividendes d'une certaine normalisation dans les années 90. Bon, par exemple, des relations extrêmement serrées avec l'Inde depuis très longtemps, un peu plus compliquées avec la Chine. Donc, c'est l'isolement qui
C'est vrai, mais l'ère Obama était un peu plus compliquée avec les États-Unis.
Ça, il n'y a pas de doute.
Il y a quelques ressemblances, effectivement, donc des Bolsonaro, Orban, des gens comme ça.
Ce qui est important, c'est que Netanyahou, il a joué dans cette campagne sur le fait que c'est un homme d'État. Voilà, c'est un homme d'État, qu'il a des contacts avec les grands de ce monde. Et en plus, c'est vrai qu'il a des contacts privilégiés avec certains d'entre eux. Et c'est en effet, ce que vous avez cité montre quand même une chose, c'est que quelque part, il cultive des relations avec des gens qui, en un certain sens, lui ressemblent, c'est-à-dire défendent aussi une vision très nationaliste, finalement, très conservatrice à bien des égards. Et il veut montrer que de ce point de vue-là, il n'est pas seul. Que finalement, il participe d'un mouvement mondial qui est un mouvement de retour à un certain type de valeur qu'il a toujours défendu en réalité.
Et je voudrais vous faire écouter un avocat qui s'appelle Eteima, que Étienne Monin a pu rencontrer, qui dit, lui, que cette diplomatie, au fond, est influencée par un certain nombre de préoccupations internes qui sapent les fondements d'Israël. Il parle notamment de la visite du président philippin Duterte. Écoutez-le.
La diplomatie israélienne est obsédée par toutes les voies perdues, même dans un vote mineur qui pourrait profiter aux Palestiniens. Par exemple, Netanyahou, au début de 2016, craignait qu'il y ait un vote contre Israël à l'UNESCO. Donc, il a parlé au téléphone avec Rodrigo Duterte, le président des Philippines, qui est maintenant impliqué dans des crimes contre l'humanité dans son pays. Il l'a convaincu de voter avec Israël à l'UNESCO. Et l'un des volets de l'accord, c'est qu'il l'inviterait pour une visite officielle en Israël, pour le relégitimer malgré les crimes commis aux Philippines. L'accord prévoyait aussi que les Philippines recevraient des armes d'Israël.
Il y a une sorte de, Alain Diakov, de paranoïa, en fait, qui s'exprime là-dedans. Non, au fond, c'est ça que ça dit, de la part de Netanyahou, un peu.
Je ne sais pas si c'est de la paranoïa, mais en tous les cas, c'est la volonté, très clairement, d'utiliser le maximum d'alliés qu'il peut au niveau international, y compris des alliés, en effet, qui sont pas toujours extrêmement fréquentables, comme le président philippin, en effet.
Étienne Monin, j'ai une dernière question pour vous. Elle est subsidiaire, parce qu'on en parle beaucoup ici, en quelques mots. Puisqu'on parlait de sécurité, est-ce que Benjamin Netanyahou a réussi à convaincre les Israéliens d'une menace réelle des Iraniens, ou pas? Ou est-ce que là aussi, on est dans la rhétorique Netanyahou habituelle qui l'emmène jusqu'aux élections?
L'Iran est une obsession, il a beaucoup appuyé dessus sur l'accord américain, mais il y a aussi la réalité de l'Iran-Syrie. Là, la politique israélienne est assez efficace. Elle est sur la ligne de crête puisqu'il y a des bombardements. Pour l'instant, ça n'a pas débordé et pour l'instant, Netanyahou obtient des résultats. Donc, il joue sur la menace existentielle et ça a un certain impact.
Et merci beaucoup Étienne, merci à vous aussi Alain Diakov de nous avoir éclairé sur cette société israélienne. Les résultats commencent à partir de 21h, on dit ça à peu près, heure française.
22 plutôt,
voilà, 21h22 et sinon quelque chose de beaucoup plus clair demain matin. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, ça se passe sous l'eau, dans un sous-marin, notamment avec ce qu'on appelle les oreilles d'or. Le cinéma nous a appris à connaître cet incroyable métier, mais vous comprendrez exactement à quoi ça sert en ce moment, notamment dans la lutte contre Daesh et autour du Charles de Gaulle. Sous les radars et Amélie Perrier qui est venue avec quelques vieilles gloires, vous verrez de la chanson, la chronique pour tous. Et Julia Foyce, bonsoir Julia.
Bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde.
Les thérapies de conversion, ça existe encore alors, dites-moi.
Et oui, et ça se développe en plus aux États-Unis, en France, un petit peu partout, en Europe, mais bon, tout ça c'est l'amour de son prochain.
Et hein, absolument, comme ça. En 2019, Le Monde à l'envers et Jean-Marc Faure. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
En Libye, Jean-Marc, ce soir, avec l'offensive du maréchal Haftar, qui nous dérange pas finalement?
C'est ça, une nouvelle guerre civile menace, c'est mal, mais ça arrange plein de monde.
Allez, le tour de la planète n'est pas fini. Dans Un jour dans le monde, comme tous les soirs, il passe par les États-Unis. Tiens, le Michigan avec Curtis Harding, Keep on Shining. Sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
sous les radars. Et Amélie Perrier. Amélie, c'est une page d'histoire pas forcément connue, en tout cas, que la Roumanie s'apprête à regarder en face.
L'ancien président roumain Ion Iliescu va être jugé pour crime contre l'humanité. Annonce faite hier par le parquet général. Retour donc en 1989. Nicolae Ceaușescu est l'ultime dirigeant du régime communiste, despote, il se fait appeler le génie des Carpates. Décembre 1989, la population se révolte. Le 25 décembre 1989, Ceaușescu et son épouse Elena sont jugés, condamnés et exécutés. Voilà, tout est filmé, vous souvenez peut-être, hein, oui, des cadavres.
Totalement.
Et c'est diffusé partout dans le monde. Apparaît alors une autre figure, Ion Iliescu, ancien du régime communiste, écarté par Ceaușescu. Il tient sa revanche, il est en première ligne dans le coup d'État de 89. Voilà ce que répond Ion Iliescu à Antenne 2 le 26 décembre 89, quand on lui demande pourquoi Ceaușescu a été tué plutôt que emprisonné, enfin, jugé et emprisonné à l'époque.
Avait un processus très spontané. Et alors il y avait une demande générale qui nous a pressé de faire ce processus, premièrement sur la pression des groupes terroristes qui voudraient les libérer.
Des terroristes, c'est la thèse officielle à l'époque. Des terroristes ont tiré sur les manifestants anti-communistes, anti-Ceaușescu, entre le 22 et le 25 décembre, le moment où le régime bascule. Plus de 860 protestataires meurent, tués par balles, plus de 2000 sont blessés. Le parquet aujourd'hui n'accuse pas des terroristes fidèles à Ceaușescu, mais bel et bien Ion Iliescu d'avoir tiré sur son propre camp. Selon la justice, c'est une vaste opération de diversion et de désinformation qui a créé une psychose généralisée marquée par des tirs chaotique et fratricide, ce sont les mots du parquet roumain aujourd'hui. Iliescu, lors de son inculpation, a dénoncé une farce.
Une autre page sombre de l'histoire, ouverte par le Zimbabwe maintenant.
Et oui, le gouvernement de ce pays d'Afrique australe veut indemniser les fermiers blancs expulsés de force. C'était la réforme agraire décidée par l'ancien président Robert Mugabe au début des années 2000. À l'époque, 4500 agriculteurs blancs sont délogés de leurs fermes manu militari. Leurs terres sont redistribuées à des fermiers noirs sur ordre du gouvernement. L'ambition, réparer les inégalités hérité de la colonisation britannique. Sauf que les terres sont redonnées à des proches du régime, surtout, ou à des fermiers sans aucune formation ni équipement. La production agricole s'effondre. Toute l'économie zimbabwéenne plonge dans une crise dont le pays ne s'est pas encore relevé. Le nouveau président Mnangagwa a fait de cette question ultra sensible une priorité fin 2017. Au pouvoir depuis moins d'un mois, c'est l'une de ses premières décisions. Un fermier blanc récupère sa ferme, accueillie comme le Messie par des dizaines d'ouvriers agricoles noirs. Eux aussi avaient été expulsés dans l'histoire. Alors c'est un peu de propagande du gouvernement de Mnangagwa. Il a promis, lui, de relancer l'économie du pays. À partir du mois prochain, il va verser l'équivalent de 47 millions d'euros pour indemniser les propriétaires spoliés.
Amélie, tout autre chose, on termine avec des tournées d'adieu en cascade.
C'est le journal Le Temps en Suisse qui nous révèle la programmation du Montreux Jazz Festival, institution planétaire qui a depuis longtemps aboli les frontières du jazz et programme tous les styles. Et cet été, pour la 53e édition du rendez-vous Les Maniques, oui, Montreux au bord du lac Léman, Le Temps s'amuse d'un certain parfum de nostalgie puisque trois artistes qui ont annoncé leur fin de carrière seront à l'affiche. D'abord, Anita Baker. Chanteuse soul, 61 ans, mais elle a choisi de prendre sa retraite. Autre voix à Montreux cet été, John Baez.
Un peu plus vieille.
Votre jeunesse ?
Ça suffit.
Et oui, un demi-siècle après sa prestation à Woodstock, l'icône folk et engagée, 78 ans aujourd'hui, revient sur scène pour une ultime tournée. Donc, et puis lui aussi fera ses adieux à la scène. It's a little
bit funny. Je l'ai vu, lui. Remarque aussi. Je l'ai vu en concert, mais j'étais très jeune.
Mais là, on est très triste. Elton John, 72 ans, performance en plein air dans un stade, donc pour sa tournée d'adieu ici à Montreux. Cette édition promet donc pas mal d'émotions et puis une affiche dingue. Il y aura aussi Lauryn Hill, Sting, les Chemical Brothers. Et puis le jazz dans tout ça, c'est quand même le Montreux Jazz Festival. Eh bien, il en reste un petit peu avec, vous l'entendez ici, le batteur Billy Cobham. Et puis on aura également Yusuna et puis une carte blanche à Chili Gonzalez.
Vous les déplacez, vous, c'est pas possible.
J'aimerais bien, vu le prix, j'aimerais bien.
Allez, Amélie Perrier, sous les radars tous les jours, dans Un jour dans le monde, merci.
France Inter,
Doha, Harare,
Jérusalem,
Mecca,
le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde,
Séoul,
Washington,
São
Paulo,
les routes
France Inter.
ce bruit caractéristique. Je suis sûr que vous savez ce que c'est. L'escale reportage d'un jour dans le monde nous emmène sous l'eau, dans une autoroute à sous-marins. Vous savez que malgré la chute de Baghouz il y a 2 semaines, les opérations militaires contre Daesh se poursuivent en Irak et en Syrie. Il faut éliminer chacune des poches restantes et tous les jours, des rafales du porte-avions Charles de Gaulle survolent les deux pays et y mènent aussi des missions de bombardement et de renseignement. Bonsoir à vous Franck Cognard.
Bonsoir Fabienne.
Franck, le Charles de Gaulle se situe au large des côtes syriennes, escorté par plusieurs navires, notamment la frégate La Provence. Son objectif principal, c'est de protéger le porte-avions en chassant les sous-marins étrangers qui pourraient l'approcher. Et dans cette zone de Méditerranée, c'est ça qui est fou, les sous-marins sont très, très, très nombreux.
Sur l'un des écrans radars de la passerelle de la frégate, des cryptogrammes colorés donnent l'idée de l'intensité du trafic maritime. Mais ce qui préoccupe l'équipage de la Provence, c'est ce qui se passe sous la surface. Cette zone de la Méditerranée orientale, c'est un peu le rendez-vous de l'international du sous-marin. Russe, américain, britannique, turc, égyptien, grec, canadien, voire algérien ou chinois, aucun d'eux ne doit jamais approcher le porte-avions Charles de Gaulle que la frégate escorte.
Dans 3 minutes à 400 yards.
Reçu. Gouverneur 227.
Un sous-marin pourrait entraver sa liberté de manœuvre, le gêner, lui faire peser une menace, montrer qu'il est vulnérable. Et ça, on ne peut pas l'accepter.
Gouverneur 226.
Le pacha de la Provence, le capitaine de vaisseau Julien Dutu.
Personne n'est en guerre avec l'autre. Pour autant, parce qu'il y a tous ces acteurs dans la zone qui ont chacun leurs agendas propres avec lesquels il peut y avoir une certaine forme de défiance les uns entre les autres, il y a énormément d'activités dans cette zone.
Un pont en dessous de la passerelle, le central opération. Ici, pas de hublot, pas de lumière naturelle, mais les lueurs des écrans d'ordinateur. 5 postes sont réservés aux analystes des bruits sous-marins, les oreilles d'or.
Donc ça c'est un bâtiment de commerce, donc on entend l'hélice qui tourne, il y a un rythme à 78 tours, et derrière le passage de toutes les pales.
Vous entendriez si c'était un bâtiment militaire, ça aurait pas du tout le même nombre de tours.
Le son que fait l'hélice sera beaucoup moins marqué, beaucoup plus discret.
Ah là pour vous c'est pas discret du tout ça?
Non, c'est très bruyant.
Comment savoir si le son enregistré est celui d'un sous-marin, d'un navire qui avec son sonar fait des relevés des fonds pour de la prospection gazière ou pétrolière dans cette Méditerranée orientale? Question posée à celle qui supervise les oreilles d'or, la chef de la lutte anti-sous-marine à bord de la frégate, la lieutenant de vaisseau Pauline.
Il y a plusieurs méthodes. Déjà s'assurer qu'il n'y a pas de bâtiment en surface justement, là où on entend du bruit, parce qu'on entend du bruit dans une direction, mais on ne connaît pas l'immersion du bruit. Le recoupement des informations, est-ce qu'on a plusieurs senseurs qui nous disent qu'il y a quelque chose à cet endroit-là? De toute façon, sous l'eau, on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'il y a, à moins que l'objet fasse surface.
Et c'est un métier passionnant, une spécialité passionnante?
Ah oui, tout à fait. C'est très, surtout, c'est le plus passionnant, c'est le moment où on attrape quelque chose.
Le sous-marin indiscret, le sous-marin rôdeur, c'est une obsession, pas forcément à cause des torpilles, plutôt parce que l'intrus pourrait enregistrer les empreintes acoustiques des bâtiments français et signer, en réussissant à s'infiltrer dans le dispositif de protection, la faiblesse de la marine nationale. Et ça, c'est impensable pour les marins de la Provence. Leur arme principale se trouve à l'arrière de la frégate. Cette arme est jaune, elle est au bout d'un treuil et elle pèse 9 tonnes.
Donc vous avez tout le treuil qui va coulisser vers l'arrière. Et donc ça nous permet de mettre tout le système de sonar remorqué à l'eau. Mon prénom c'est Didier, mon grade c'est major, ma fonction, chef de secteur détection sous-marine. Nous choisissons au vu des températures, de la bâtie thermique comme on appelle, l'immersion optimale pour la détection.
Pour être sûr d'être dans la bonne couche de propagation des ondes dans l'eau.
Dans l'eau. Tout ça, ça se calcule, ça fait partie de notre métier.
Quelques instants après la mise à l'eau de centaines de mètres de câbles débutent les premières émissions du sonar. Ce chant des sirènes un peu bizarre emplit toute la frégate. Sur le pont arrière, l'hélicoptère affecté au bateau attend le vert décollage. Dans le domaine sous-marin, Cet hélicoptère, c'est l'extension du domaine de la lutte.
Donc là, on est dans le NH90 Caïman Marine.
Au-dessus de l'eau, le pilote, le capitaine de corvette Geoffroy, maintient son appareil en vol stationnaire. Le sonar embarqué plonge et remonte, il donne des coups de sonde avant que la chasse ne s'affine.
Dans ce cadre-là, on a un rôle très important, c'est d'essayer de prendre la signature acoustique du sous-marin. Et pour ça, il faut larguer des bouées acoustiques qui sont derrière, là. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est un système de largage de bouées. Le sous-marin, il a une route et on va larguer sur la route du sous-marin un barrage. Il va passer dedans et il y a certaines bouées qui vont signer et qu'on va enregistrer et qui, après analyse, permettront de dire c'était plus de sous-marin.
C'est assez souvent décevant la chasse aux submersibles envahissants. Oublier la bataille navale, c'est plutôt au jeu d'échecs qu'il faut penser.
Donc il y a des moments où on est obligé de faire des hypothèses sur ce que va faire l'adversaire parce qu'on ne peut pas chercher partout.
Jean-Michel, le commandant en second de la Provence.
Et c'est en ça que c'est un peu une partie d'échecs. Il faut anticiper certains coups et être prêt à faire des choix, à prendre des options pour essayer d'avoir le coup gagnant.
Ah, toujours ce son ?
Toujours. Détecter, ça change l'espace, mais ça, du coup, ça change aussi le temps. Parce que la lutte anti-sous-marine, c'est aussi une lutte du temps long. Ça peut durer des jours, des semaines, des mois.
La partie d'échec sous l'eau est signée Franck Cognard pour Un jour dans le monde. Allez, le groupe Beyrouth et Gallipoli sur France Inter. Mais c'était bon, Beyrouth sur France Inter.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saintès.
We're all scared of girls.
Un jour dans le monde.
La chronique pour tous de Julia Foyce qui met à l'honneur les femmes dans le monde et distille les bonnes et mauvaises nouvelles aussi sur ce front-là. On commence avec le mot de la semaine, Julia.
Molka. C'est joli, hein, Molka, ça fait couleur café, péché mignon, sexy chocolat, tout ça, surtout une belle tarte à la crème. Oui, tellement ces derniers temps, ce mot se retrouve à la une des journaux sud-coréens. La pratique, Fabienne, consiste à placer de toutes petites caméras espionnes dans des cabines d'essayage, sous des escalators, dans des toilettes publiques, filmer des filles, des femmes, à leur insu, et balancer ça sur le net, moyennant quelques pépettes. Jusqu'ici, tout le monde le savait. Tout le monde se taisait. Au pays du matin, pas si calme que ça, on ferme sa bouche, on serre les dents, attention tabou et la honte sur toi si on a pu filmer sous ta jupe. Mais MeToo est passé par là. Et les Sud-Coréennes se mobilisent depuis juin dans la rue et sur les réseaux sociaux pour que le gouvernement, la police, la justice finissent par intervenir. Les affaires de Molka officiellement recensées ont bondi, multipliées par 6 depuis 2010. On en comptait 6000 en 2017. Après, quel que soit le type d'agression sexuelle et l'endroit du monde où elles ont lieu, les chiffres sont désespérément les mêmes. Une femme sur 10 seulement porte plainte. Plainte qui débouche seulement dans 2% des cas sur une condamnation. Dernière en date, deux stars de la K-pop, cette musique extrêmement populaire auprès des jeunes en Corée du Sud, qui sont actuellement derrière les barreaux. Et puis là, une affaire d'une ampleur inédite. Deux hommes ont été arrêtés pour avoir placé des caméras dans 30 hôtels et 42 chambres, filmé 1600 personnes, pas forcément tout le temps habillés, hein, diffuser les vidéos de 800 couples donc, et récolter au passage la modique somme de 5 500 €. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Les autorités publiques, après avoir été très complaisantes avec le Molka, ont fini par lever le petit doigt, voire 10 petits doigts, puisque les principales villes du pays se sont lancées dans la fouille à grande échelle de 2000 hôtels et de 50 000 toilettes publiques. Alors on dit quoi ? C'est un petit peu ragoûtant, mais il était temps.
Allez, décidément, c'est une manie de filmer les femmes à leur insu.
Oui, car au même moment, là, maintenant, un hôpital de San Diego se retrouve poursuivi en justice par un collectif de 80 patientes. En tout, elles seraient jusqu'à 1800 à avoir été filmées alors qu'elles accouchaient ou se faisaient opérer. Ce qui veut donc dire, hein, chère Fabienne, pour que les choses soient à peu près claires, qu'elles étaient à ce moment-là inconscientes et ou en souffrance et ou à peu près nues, pour ne pas dire totalement. L'hôpital, le Women's Health Center, ne dément pas mais se défend. Oui, des caméras de surveillance ont bien été placées dans 3 salles de naissance et plusieurs blocs opératoires, mais c'est parce que des produits anesthésiens avaient été volés et qu'ils voulaient retrouver les coupables. L'objectif devait donc rester braqué sur les chariots de produits, mais oh, c'est ballot. Oh, on a la caméra baladeuse à San Diego et alors, elle a glissé. Oh, des fesses, des cuisses, des sexes. Une plainte collective avait déjà été déposée contre l'hôpital en 2016. Elle a été classée sans suite. Alors on dit quoi ? Là, maintenant, MeToo a eu lieu et cette fois, on va faire mieux ?
Allez, et puis très très bonne nouvelle. En revanche, dans certains films, les acteurs, Julia, sont consentants. Alors.
Mais oui, surtout quand ils s'appellent Russell Crowe, Nicole Kidman et Lucas Hedges, tous les trois à l'affiche de ce film Boy Erased, actuellement en salle. C'est l'histoire de Jared, adolescent, bien comme il faut, bien dans les clous de cette petite ville de l'Arkansas. Bon élève, il joue au basket et sort même avec une pom-pom girl, c'est vous dire s'il essaye. Sauf qu'il est homosexuel et que ça, c'est tout de suite moins raccord couleur, ça fait tache dans le tableau, vous voyez. L'apprenant, son pasteur de père, vous savez, celui qui a le cœur sur la main et qui aime son prochain, l'envoie au refuge, un endroit à mi-chemin entre la secte et le camp de redressement. C'est une histoire vraie, c'est même la première fois qu'un film raconte la réalité de ces thérapies de conversion toujours très en vogue aux États-Unis. Leur point de départ, c'est que l'homosexualité est un choix et accessoirement un péché dont on peut, dont on doit guérir. Sermons, prêches, séances de tir, humiliation publique, mauvais traitements en tout genre, tout est bon pour remettre Jared et ses camarades de galère sur la bonne voie. Deviens l'homme que tu n'es pas, fais semblant et le reste suivra. Voilà ce qu'ils entendent à longueur de journée. Ou encore, Dieu n'aime pas ta façon d'être. Alors, sors-toi les doigts. Non, ça c'est de moi. Allez, bande annonce.
Oh non.
Your revelation.
You want to say goodbye?
Welcome to the refuge program.
You cannot be born a homosexual. This is a lie. It's a choice.
Go. Fake it till you make it. Become the man you are not. Save yourself.
Jared, God will not love you the way that you are.
Is this what you want? Who's gonna strike this demon down?
On aura aussi droit à une scène d'exorcisme où le jeune Cameron se fait exorciser à grands coups de Bible sur le dos. Comme lui, ils sont 700 000 jeunes à avoir subi aux États-Unis ce genre de thérapie. Elles existent aussi en Europe, seraient même en augmentation d'après les associations LGBT à la faveur de l'expansion des églises évangéliques. En France, leur recrudescence s'expliquerait aussi par le retour en force des chrétiens les plus radicaux et les prises de position publiques, entre autres, de la Manif pour tous. Le problème, c'est le flou juridique qui entoure ces pratiques, opérées en général dans le plus grand secret des familles, des églises ou des cabinets médicaux. En mars 2018, le Parlement européen a voté à une très large majorité un texte qui condamne les thérapies de conversion, encourage les États membres à légiférer pour les interdire. À ce jour, sur les 27 pays de l'Union, seul un État l'a fait, Malte, partout ailleurs, circuler sous la soutane, il n'y a rien à voir.
Julia Foyce, dans Un jour dans le monde, merci Julia.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers, Jean Marfour. Jean-Marc, une situation qui reste que très tendue en Libye, le pays qui semble à nouveau au bord de la guerre civile après l'offensive donc lancée contre la capitale par les troupes du maréchal Haftar. Mais vous nous dites, ne nous fions pas aux apparences, cette offensive en réalité ne dérange pas grand monde et c'est votre monde à l'envers.
Si on écoute le discours officiel, ce qui se passe est mal et il faut le condamné. Récapitulons. La Libye est coupée en deux depuis des années et l'homme qui contrôle l'est du pays a soudain décidé de s'attaquer à l'ouest pour conquérir la capitale Tripoli. Ses avions ont bombardé l'aéroport de la ville. Les combats se multiplient à une trentaine de kilomètres. Il y a déjà des milliers de déplacés. Il y a donc un vrai risque d'embrasement généralisé. C'est un vrai motif d'inquiétude. Par-dessus le marché, le pouvoir agressé, celui de l'Ouest, est le seul légitime au regard de la communauté internationale. Et pour couronner le tout, cette offensive d'Haftar, l'homme de l'Est, a démarré le jour même de la visite sur le terrain du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et à quelques jours d'une conférence nationale sur le pays le 14 avril. Autant dire que c'est un vrai pied de nez aux Nations Unies. Donc on condamne, avec les formules habituelles, violation du droit international, appel solennel à l'arrêt immédiat des combats. Mais ces condamnations sont un peu malsaines parce qu'en réalité, en effet, cette offensive ne dérange pas tant que ça.
Donc pourquoi ? Qui, Jean-Marc, peut y trouver un intérêt ?
Ne le répétez pas, plein de gens. Commençons évidemment par les alliés au grand jour du maréchal Haftar. L'Arabie Saoudite a visiblement donné son feu vert à cette offensive il y a 10 jours, lorsque le dirigeant libyen s'est rendu à Riyad. Les Saoudiens y voient un moyen d'étendre leur influence par les réseaux du salafisme dit matkaliste, un courant conservateur de l'islam auquel Haftar a donné des gages. Les Émirats Arabes Unis aident aussi en fournissant des tanks, parce qu'Haftar est opposé au groupe des frères musulmans, combattus par les Émirats. Même chose pour l'Égypte du maréchal président Sissi, qui est un homme au profil assez similaire à celui d'Haftar. Regardons plus loin. La Russie soutient implicitement le maréchal, qui est russophone. Moscou aurait envoyé des mercenaires pour le soutenir et voit en Libye l'occasion, comme en Syrie, de damer le pion aux Occidentaux. Côté européen, ce n'est guère mieux. De l'avis de plusieurs diplomates, la France joue un peu double jeu depuis un moment. Paris a déjà appuyé militairement Haftar dans le passé avec des forces spéciales et l'a fait revenir dans le jeu politique en le conviant il y a 2 ans au sommet sur la Libye à la Selle Saint-Cloud. Et l'Italie fait peu ou prou la même chose depuis que Salvini est aux affaires. Haftar est perçu à tort ou à raison par les Européens comme un rempart contre l'islamisme djihadiste et un soutien dans la lutte contre l'immigration. Enfin, les États-Unis, en pleine phase de désengagement militaire, ils ferment les yeux, d'autant que Haftar tient possède la citoyenneté américaine.
Et donc il y a, comme souvent, une sorte de quoi ? Tentation de l'homme fort.
Hein. En gros, oui, hein, vous savez, le gars qui rétablit l'ordre à la baïonnette, pardonnez le cynisme, mais au moins après on y verra clair. Ajoutons un fond de culpabilité sur le sujet. Après tout, c'est l'intervention militaire occidentale en 2011 qui a en grande partie déclenché le chaos en Libye après la mort de Kadhafi. Donc on n'est pas très à l'aise. Et puis tout le monde sait que la Libye est quasi ingouvernable tant elle est composée de tribus en rivalité les unes avec les autres. Donc de 2 choses l'une à l'issue de cette offensive. Soit Haftar s'impose et au moins on aura un interlocuteur clair, notamment pour les contrats pétroliers. Soit il échoue pour avoir eu les yeux plus gros que le ventre. Et ça sera simplement le retour à la case départ, une Libye morcelée en dizaines de milices. Dans les 2 cas, l'offensive en cours n'est donc pas nécessairement problématique si on le regarde avec le cynisme fréquent dans les relations internationales. Bon, le petit souci, c'est qu'entre-temps, il peut quand même y avoir des milliers de morts dans cette affaire.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers. Merci beaucoup, Jean-Marc, et à demain.